Shut your mouth, say it away, slow down.
6h57, événement ce matin avec du Bob Dylan, tout nouveau et tout frais. On en sait plus sur le prochain album du prix Nobel de littérature. Il avait publié ce que vous entendez, la Murder Most Fall, que vous entendez, c'était il y a quelques semaines, en plein confinement, un confinement qui semblait lui réussir. Et puis il avait aussi publié ce morceau, I Contain Multitudes. If you don't come with me, I fuss with my hair and I fight blood feud. Tout ça, c'est du frais, c'est de l'inédit, et c'est du nouveau Bob Dylan qui a enfin révélé la date de son prochain album, un nouvel album d'inédit, Rough and Rowdy Ways, qui paraîtra le 19 juin, dans un mois, presque jour pour jour. Et pour patienter, puisque Dylan est d'humeur généreuse, un nouveau morceau publié ce week-end, on va en écouter un extrait, ça s'appelle False Prophet. My fleet-footed guides from the underworld. No stars in the sky shine brighter than you. You girls mean business and I do too. Well, I'm the enemy of treason, an enemy of strife. I'm that enemy of the unlived, meaningless life. I ain't no false prophet, I just know what I know. I go where only the lonely can go.
Publié ce week-end, False Prophet, un inédit de Bob Dylan. 19 juin, le nouvel album Rough and Rowdy Ways, nouvel album d'inédit là encore. Du prix Nobel de littérature. Il est 6h59 sur Europe 1, l'heure de retrouver Laurent Cabrol pour la météo.
Il a une voix qui accroche en ce maintenant, hein, au fur et à mesure qu'il vieillit, Dylan, hein, c'est vraiment incroyable. Je reviens.
Je me joins à vous, je me joins complètement, je suis d'accord.
Je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, à savoir que nous allons vivre une journée très agréable. Il y a tout de même des nuances que je voudrais installer. Sur le littoral de la Manche, il ne serait pas étonnant que dans l'après-midi vous ayez quelques passages nuageux ou brumeux, mais enfin c'est une nuance. Et puis quand même un peu plus important, sur les Alpes et sur la Corse, comme sur la Côte d'Azur d'ailleurs, dans ces trois parties de la France, là nous risquons des orages en fin d'après-midi, début de soirée. Bon, voilà, ce sont les seules nuances dans un ciel qui reste quand même très 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 joli pour l'ensemble de la France. Les températures maximales vont s'échelonner entre 18 et 26 degrés, 26 à Marseille, 18 à Deauville, nous irons même jusqu'à 29 à Montpellier. Ce sont vraiment des valeurs estivales. Il en fera 25 à Paris, 24 à Lyon, 23 à Limoges, enfin bref, c'est une journée vraiment bien. Demain, après-demain, il fera encore plus chaud, ce sera presque ce sera le même temps, pratiquement le même temps, jusqu'à vendredi. Samedi, dimanche, une petite parenthèse pluvieuse qui devrait être de courte durée. Malheureusement, ça tombe le congé de fin de semaine, mais samedi, dimanche, petite parenthèse pluvieuse, et ensuite, on devrait renouer avec le beau temps, et je vous en dirai un petit peu plus longuement tout à l'heure sur la semaine suivante.
Merci beaucoup Laurent Cabrol, il est presque 7h, l'heure de dire bonjour à Hélène Zélani. Bonjour Hélène.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Vous êtes sur Europe 1, vous écoutez Le Monde Changé.
Europe 1, 7h.
Quand on travaille pendant 7 ou 8 heures, les gens, au bout de 2-3 heures, ils enlèvent le masque parce qu'ils transpirent de trop et tout. Sur une chaîne de désossage, on est collés les uns aux autres.
Plus d'une centaine de cas de Covid-19 dans deux abattoirs français près d'Orléans et de Saint-Brieuc. Pourquoi les abattoirs sont-ils particulièrement touchés? Enquête dès le début de ce journal. Des brigades sanitaires à pied d'œuvre dans toute la France pour tenter de retrouver les cas contacts et court-circuiter le virus. Mais elles n'ont pas toujours la tâche facile.
Le contact que j'ai eu, c'était la sœur du patient zéro qui ne souhaitait pas se confiner. Elle m'a dit parce qu'elle n'était pas malade et qu'elle resterait chez elle, mais c'est tout.
Un sac à dos et trousses sont prêts. Les collégiens de 6e et 5e sont de retour en classe aujourd'hui dans les régions les moins touchées. Après une semaine de déconfinement, la machine repart, nous dira Nicolas Barré, mais avec des surcoûts pour répondre aux mesures sanitaires. Et puis pizza, pasta et Chianti. En Italie, bar et restaurant rouvrent aujourd'hui. Reportage à Rome.
Je suis vraiment heureux de rouvrir parce qu'après 3 mois de fermeture, j'ai perdu 350 000 euros. C'est lourd.
Et votre invité à 7h40, Mathieu ?
Quand quand un pro de l'électroménager se met à la mobilité. Seb va produire des vélos électriques. Thierry de la Tour d'Arthez, PDG de Seb, à 7h40. À 8h15 ce matin, Sonia Mabrouk reçoit François Baroin, le maire Les Républicains de Troyes, président de l'Association des maires de France. Il répond à vos questions au 3921. Inscrivez-vous déjà 3921, le hashtag Radio Ouverte. Presque 7h02 sur Europe 1. Très bon réveil à toutes et à tous.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Le journal Mathieu Béliard, Hélène Zélani.
On l'a déjà vu en Allemagne et aux États-Unis, c'est également le cas en France. Les abattoirs semblent être un foyer de contamination majeur pour le Covid-19. Plus d'une centaine de salariés au total ont été testés positifs dans deux établissements, l'un dans les Côtes d'Armor, l'autre dans le Loiret. L'ensemble du personnel va être testé et reste isolé à la maison. Pourquoi les abattoirs sont-ils particulièrement touchés ? Élément de réponse avec Pierre Herbulot.
Blouse, masque, lavage de mains et de bottes, les abattoirs n'ont pas attendu le Covid-19 pour mettre en place des normes sanitaires très strictes. Encore faut-il les respecter, raconte Jean-François, désosseur à la retraite.
Quand on travaille pendant 7 ou 8 heures, les gens, au bout de 2-3 heures, ils enlèvent le masque parce qu'ils transpirent de trop et tout. Sur une chaîne de désossage, on est collés les uns aux autres et on est à même pas 50 cm les uns des autres.
Donc c'est difficile de respecter ce qu'on appelle les gestes barrières, quoi.
Mais c'est impossible.
Facteur aggravant, la topographie d'un abattoir.
Le lieu fermé, beaucoup de monde.
Yvon Le Floic, médecin généraliste dans les Côtes d'Armor, se demande si le matériel utilisé ne joue pas également un rôle.
Des machines qui aérosolisent, type Karcher, des scies qui permettent de couper, etc., qui créent des aérosols. Ces aérosols en eux-mêmes ne sont pas contaminants, mais si effectivement quelqu'un excrète du virus, il y a peut-être un risque effectivement de propagation. J'ai entendu parler de machines qui projettent de la vapeur aussi, etc., donc peut-être.
Peut-être aussi que le plus grand danger est beaucoup moins acéré qu'une scie ou qu'un couteau de boucher. Avec le rythme minuté de la chaîne de découpe, de nombreux salariés se retrouvent en même temps autour de la machine à café.
Enquête signée Pierre Herbulot. Au total, depuis une semaine, 25 foyers de contamination, des clusters en anglais, ont été recensés. Le ministre de la Santé, Olivier Véran, assure que le système est en place pour tester, isoler et casser les chaînes de contamination.
Pour y parvenir, des brigades sanitaires s'occupent de retrouver, puis d'appeler un par un, tous ceux qui ont été en contact avec les personnes testées positives.
Oui, pendant au moins 15 minutes et sans masque dans les dernières 48 heures. Charles Guyard a pu suivre le travail de l'une de ces brigades à Vannes, dans le Morbihan.
Oui, bonjour, je suis bien chez Madame.
Depuis mercredi dernier, c'est l'appel que beaucoup redoutent.
Il s'avère que vous avez été en contact avec Monsieur qui a été contaminé au Covid+.
Nous sommes au rez-de-chaussée de la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan. Au téléphone, une cinquantaine d'opérateurs appellent tous ceux ayant fréquenté une personne déclarée positive au Covid-19, signalée par un médecin traitant du département. À ces cas contacts, on leur soumet un questionnaire, les invite à se faire tester à leur tour et surtout à s'isoler le temps de connaître les résultats.
L'idée, c'est celui-là, réagir très vite.
Mohamed Asgag, le directeur de la caisse du Morbihan.
Ce qu'on nous demande, c'est de déployer une force de conviction, d'explication pour faire comprendre à la personne qui est sujet contact qu'il y va de sa santé, mais qu'il y va aussi de la santé de ses proches.
Et parfois, cela ne suffit pas. Rien, en effet, n'oblige une personne à se faire tester ou même à se confiner.
Le contact que j'ai eu, c'était la sœur du patient zéro qui ne souhaitait pas se confiner. Elle m'a dit parce qu'elle n'était pas malade et qu'elle resterait chez elle, mais c'est tout. Donc j'ai insisté, mais elle ne souhaitait pas faire le test.
Recueillies dans le strict respect du secret médical, ces informations sont transmises aux agences régionales de santé, lesquelles peuvent enfin détecter la formation d'un éventuel cluster. Vannes-Charles Guyard, Europe 1.
À la crainte des autorités, c'est aussi que des cas ne se déclarent dans les établissements scolaires. D'ailleurs, près d'Angoulême, deux écoles vont garder porte close après la découverte de deux cas de Covid-19 parmi des membres de l'équipe. Même décision dans une école niçoise où un élève est touché.
La rentrée scolaire se fait donc très progressivement. Aujourd'hui, autour des collégiens de 6e et 5e de reprendre le chemin des classes, en tout cas dans les zones vertes.
Ils sont environ 150 000 à retrouver leurs professeurs avec masques et mesures de distanciation obligatoires. Les parents sont parfois plus enthousiastes que les enfants, comme dans cette famille d'Aix-en-Provence, suivie par Stéphane Frangy.
Un dernier coup d'œil au nouvel emploi du temps allégé de sa fille. Cette rentrée des classes tombe à point pour Zélie Tessier.
Ça fait donc, j'ai compté 3, 6, 14 heures de cours. C'est quand même bien pour les enfants de retourner à l'école parce que là, d'être confiné entre son canapé, ses écrans, c'est quand même pas épanouissant. Mais là, on voit bien que cette semaine, par exemple, elle a oublié de faire des devoirs et donc on arrive un petit peu au bout de ce qu'on peut faire.
Circé, donc, qui est en 5e, est une bonne élève, mais elle fait tout de même la moue à l'heure de reprendre les cours.
C'est pas comme si j'avais le choix, donc je fais... je vais faire avec et je vais y aller, quoi. Je suis pas très angoissée. C'est un peu étrange, mais ça va. Et là encore, j'ai la chance, je suis restée avec ma classe, mais au départ, je devais être avec des gens différents.
Et dans son sac à dos allégé, lui aussi, un nouvel objet s'invite aux côtés de la tablette, des feuilles et de la trousse. Des masques achetés par David, son papa.
Ça, alors les masques achetés à la pharmacie, c'est avec ça qu'elle va partir. On verra le nombre dont elle a besoin pendant la journée, l'usage qu'elle en fait. À 3 heures de cours, on va lui en mettre 2, un fixe et un en plus en cas de besoin.
Et les parents de Circé, tous les deux enseignants, se disent confiants quant aux conditions sanitaires en vigueur au collège de leur fille. Aix-en-Provence, Stéphane Frangy, Europe 1.
Et pour ce qui est des collégiens des 4 régions en zone rouge, notamment l'Île-de-France, ils restent à la maison. La décision sera prise à la fin du mois pour la suite. Pour les lycéens.
Europe 1, il est 7h07.
Après une semaine de déconfinement, la vie des entreprises repart. Mais une question se pose, qui va payer la facture ? C'est votre éclairage éco ce matin, Nicolas Barré.
Oui, alors en effet, la bonne nouvelle, c'est que l'activité repart petit à petit. On le voit dans la construction. Le ministre du Logement, Julien de Normandie, le disait hier à ce micro, 72% des chantiers ont redémarré contre 50% une semaine plus tôt. Mais la mauvaise nouvelle, c'est que ce redémarrage se fait en mode dégradé et avec des surcoûts parfois très lourds. Dans le bâtiment, les professionnels estiment le surcoût des mesures sanitaires entre 15 et 20% du coût d'un chantier. Ça alourdit de 20% le coût de la construction d'une maison individuelle, par exemple. Dans l'industrie, le surcoût salarial pour une unité de montage serait également de l'ordre de 20%, eh bien, du fait des règles de distanciation physique ou de la division du travail en équipe qui ne se croisent pas.
Et ces surcoûts, on les retrouve partout ?
Alors dans la distribution, oui, par exemple aussi, un chiffre, ces surcoûts sont de l'ordre de 100 000 euros environ pour un supermarché pour les 6 prochains mois, parce qu'il faut aménager les caisses avec du plexiglas, donner du gel et des masques à tout le monde, filtrer les clients et donc augmenter le nombre de vigiles, remplir les rayons uniquement aux heures de fermeture, donc verser des heures supplémentaires ou des primes de nuit, etc. etc. On peut s'attendre à ce qu'une partie de ces coûts finisse par être supportée par les consommateurs. C'est par exemple ce qui se passe chez les coiffeurs ou chez les garagistes, beaucoup facturent entre 2 et 6 euros le coût des mesures barrières. La vie des entreprises, vous le voyez, repart, certes, mais doucement, et à un coût qui commence à se retrouver dans les prix.
Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Échos, tous les matins dans le journal de 7h d'Europe 1.
Et dans ce contexte de difficultés pour les entreprises, les syndicats commencent à jouer une petite musique autour de la hausse des salaires, comme Laurent Berger, numéro 1 de la CFDT. Pour lui, il faut amorcer une discussion sur les salaires, les parcours professionnels ou la reconnaissance. Sinon, on aura été hypocrite vis-à-vis des salariés en première ligne lors de cette crise. Bonjour Bernard Vivier.
Bonjour.
Merci d'être l'invité d'Europe 1 ce matin. Vous êtes directeur de l'Institut supérieur du travail, expert des questions sociales et syndicales. Alors quand on pense première ligne, on pense immédiatement soignants. Le gouvernement leur promet des augmentations. C'est une priorité pour vous ?
Les soignants, les aides-soignants, les personnels hospitaliers ont été non pas invisibles, comme on le dit parfois, mais très exposés. Ils ont été en effet en première ligne. Ils ont besoin d'une marque de considération et de rémunération. Ils ont surtout besoin de voir le cadre de travail dans lequel ils sont mieux organisés. La bureaucratie a beaucoup encrassé l'hôpital et les conditions de travail. Et ce qui se passe aujourd'hui n'est finalement que la résurgence d'une longue période où la gestion de l'hôpital public a été dégradée. Et effectivement, ces personnes sont aujourd'hui en première ligne.
Les premières lignes, évidemment, les blouses blanches, et puis ensuite on peut aller deuxième ligne, les personnels des supermarchés, beaucoup de monde qui a été mobilisé et beaucoup de petits salaires. À vos yeux, on est en train de récompenser ou de réajuster les salaires ?
On est en train de réajuster les salaires et cette question de la revalorisation des métiers dits essentiels, mais tous les métiers sont essentiels. La vraie question n'est pas tellement de savoir s'il y a des métiers aujourd'hui essentiels par rapport à d'autres. Hier, c'était, souvenons-nous, les policiers, les pompiers. Aujourd'hui, ce sont les infirmiers, les médecins. Tous les métiers sont essentiels. La question importante, c'est la question du travail décent, c'est la question de la dignité du travail, c'est la question de l'organisation. Et plus en profondeur que les questions de sous, c'est la question de la gestion des emplois et des compétences. Ce que nous vivons bouleverse aujourd'hui les métiers, nous vivons une mutation des métiers extraordinaire et les entreprises comme les personnes ont besoin de se réunir pour travailler l'avenir de leur métier.
Merci Bernard Vivier, directeur de l'Institut supérieur du travail, l'invité en direct du journal de 7h d'Europe 1 ce matin.
Europe 1, il est 7h11, la suite du journal, Mathieu Béliard, Hélène Zélani.
Oh sole mio, pasta vino, direction l'Italie, vous l'aurez envie, compris, Hélène. Ça fait envie, le pays entre ce matin dans la deuxième étape importante du déconfinement.
Et quelle étape? Les commerces rouvrent, notamment les bars et restaurants, mais plus dans les mêmes conditions évidemment. Blandine Hugonnet a suivi les derniers préparatifs à Rome. Là, on a mis un panneau sur la table. Heureusement que c'est transparent, ça aide un peu à garder une sorte de normalité.
Dans la petite trattoria de Valerio, sur les nappes à carreaux, des plexiglas ont été installés pour séparer les clients d'une distance d'un mètre obligatoire. Mais désormais, l'ambiance n'est plus la même.
Mon restaurant, c'est censé être un lieu de partage, donc ça va être vraiment étrange. Il faut voir comment les gens vont réagir. Mais pour moi, ces plaques, c'est la seule solution aujourd'hui. Et j'ai quand même dû enlever la moitié de mes tables.
Grâce à sa grande terrasse dans le centre historique de Rome, Clemente n'a pas besoin de plexiglas ni de la climatisation désormais interdite. Mais il est prêt et pas mécontent de rouvrir.
On a tout désinfecté, on a du gel, le cuisinier aura une visière de protection. Je suis vraiment heureux de rouvrir. Et aussi parce qu'après 3 mois de fermeture, j'ai perdu 350 000 euros. C'est lourd.
Ce restaurateur n'a encore aucune réservation, mais il attend les Italiens de pied ferme. Depuis ce matin, ils ont enfin le droit de circuler librement, sans attestation, pour profiter de cette réouverture d'un grand nombre d'activités commerciales. Rome, Blandine Gonnet, Europe 1.
L'Italie, puisque vous avez envie d'y être vous aussi, Mathieu a annoncé hier que les frontières allaient rouvrir aux touristes européens à partir du 3 juin.
Après la vague d'annulation de ces dernières semaines, au moins une bonne nouvelle. La cérémonie des Molières aura bien lieu.
Oui, elle couronne les talents du théâtre. Rendez-vous le 23 juin au Châtelet à Paris, dans des conditions forcément différentes. Pour Jean-Marc Dumontet, le président des Molières, réussir à organiser la cérémonie, c'est déjà en soi une belle victoire.
C'est vrai que notre secteur est très malmené en ce moment, puisqu'il est à l'arrêt et on ne sait pas jusqu'à quand. Mais c'était important pour nous d'abord de récompenser tous les talents, tous les spectacles qui ont été présentés cette année. Puis surtout, les Molières, c'est un prétexte pour faire une fête autour du théâtre et on avait envie de ne pas se passer de ce grand rendez-vous. Évidemment, ce ne sera pas une cérémonie comme d'habitude. Elle se déroulera sans public et c'est à nous de réinventer une cérémonie où de grands acteurs viendront témoigner de leur engagement, de leur passion autour du théâtre, puis surtout les récompenses, puisqu'il y aura 18 lauréats comme chaque année cette saison.
Jean-Marc Dumontet, président des Molières, au micro Europe 1 de Sophie Echen. Isabelle Adjani sera en lice pour le prix de la meilleure comédienne dans un spectacle du théâtre public pour son rôle dans Opening Night. La cérémonie sera diffusée d'ailleurs en direct à 20h50 sur France 2.
Merci beaucoup Hélène Zélani. C'était le journal de 7h sur Europe 1. À 7h30, nous retrouverons Jérôme Lacroix. Bon réveil à toutes et à tous.
Il est 7h14, vous posez vos questions santé au médecin d'Europe 1 sur le hashtag Radio Ouverte.
Bonjour Jimmy Mohamed.
Bonjour Mathieu, bonjour à toutes et à tous.
Est-ce que la viande peut être un mode de transmission? Est-ce que les travailleurs peuvent contaminer la viande? Évidemment, ces clusters dans les abattoirs dont nous parlions dans le journal et ces questions sanitaires qui se posent, Jimmy.
Même si on ne connaît pas pour l'instant l'origine de la contamination, il n'y a clairement pas de risque lié à la viande ni aux animaux, même si on a su qu'on pouvait éventuellement contaminer des chats ou des chiens. Ce qu'on sait en revanche, c'est que cette question des abattoirs, on retrouve exactement cette même problématique dans le monde entier, aux États-Unis, au Canada, en Espagne ou même en Irlande. Ça posera donc la question du dépistage de ces travailleurs. Peut-être il faudrait faire des prélèvements de façon hebdomadaire, mais seul l'avenir nous le dira. Et puis on peut tirer quelques enseignements. Le premier, c'est que l'épidémie n'est clairement pas terminée et que ces clusters vont faire l'épidémie et non pas l'inverse. Et puis on se rend compte que ce virus se développe plus facilement lorsqu'il y a de la proximité dans un lieu clos avec de nombreuses personnes dans une même pièce, avec parfois un système de ventilation un peu inefficace. Le jackpot, c'est si ces personnes parlent, mangent ou chantent. Enfin, soyons très vigilants. Si vous remarquez bien, tous ces clusters, pas simplement dans les abattoirs, dans l'immense majorité des cas, ils surviennent dans des zones vertes et non pas des zones rouges classées par le gouvernement, ce qui veut donc dire que le virus continue de circuler et qu'il faudrait peut-être renforcer les mesures de distanciation physique et surtout de porter un masque dans tous les lieux clos. Soyons patients, mais pour l'instant, pas de risque lié à cette contamination par rapport à la viande.
Merci beaucoup Jimmy Mohamed, le docteur Jimmy Mohamed qui répond à vos questions sur Europe 1 juste après le journal de 7h et que l'on retrouve à 15h avec Mélanie Gomez dans Sans Rendez-vous, l'émission santé, 7h15.
La matinale d'Europe 1 avec vous, Mathieu Béliard, et c'est l'innovation du jour avec Anissé Mbida.
Quel plaisir de vous retrouver, Anissé.
Bonjour. Bonjour, Mathieu. Bonjour.
Alors, pour les auditeurs qui sont à l'écoute comme ça, ils se disent pourquoi il dit ça? Parce que tous les matins, on s'est retrouvés, mais à distance. Et là, nous sommes dans le même studio pour la première fois depuis plus de 2 mois maintenant. Et du nouveau dans le nettoyage et la purification. Justement, ce matin, vous êtes arrivé avec plein de bonnes idées. Peut-être pour réorganiser la maison. Une innovation française. Il s'agit d'un tunnel de désinfection pour les supermarchés. On entre avec son caddie à Nice et on ressort sans aucun microbe.
Oui, je ne sais pas si vous avez fait vos courses au supermarché récemment, Mathieu, mais on voit beaucoup de gens qui évitent de toucher les chariots avec les mains. Ils utilisent des gants ou des lingettes parce qu'on ne sait jamais quand ça a été désinfecté. Eh bien, c'est justement l'objectif de ce tunnel, hein, c'est rassurer en proposant une sorte de nettoyage en libre service. D'ailleurs, ça ressemble un peu au tunnel dans lequel on lave les voitures, mais en plus petit, hein, ça fait 2 mètres de long sur 1 mètre de large. Donc, on entre d'un côté, à l'intérieur, une sorte de brumisateur qui va pulvériser un produit désinfectant. Et en sortant, en principe, le caddie et celui qu'il pousse sont totalement désinfectés.
On doit entrer, nous, avec le chariot?
Oui.
Il
n'y
a,
oui.
a pas de risque pour la santé?
A priori, non, hein, puisque le produit n'est pulvérisé qu'en dessous d'1m10, donc uniquement à hauteur de chariot. Et évidemment, le masque est obligatoire. Alors ça, c'est pour le tunnel
mais
français.
On va pas avoir le pantalon trempé, tout va bien?
C'est un brumisateur.
C'est un
micro-gouttes. Alors, mais ça, c'est pour le tunnel français qui est fabriqué à Tourcoing par la société Alinéaire, mais en Chine, on développe des tunnels, non pas pour les chariots, mais pour désinfecter des personnes de la tête aux pieds, avec leurs effets personnels. Alors c'est plus imposant, on dirait un sas de décontamination. À l'intérieur, on doit écarter les bras et patienter 1 minute, le temps de se faire désinfecter. Alors heureusement, on reste habillé. Et là aussi, on n'y aurait aucun risque pour la santé, même si le masque est obligatoire. Alors c'est testé en ce moment à l'aéroport de Hong Kong, mais on imagine que c'est le genre d'appareil qu'on pourrait bientôt retrouver un petit peu partout pour rassurer, bien sûr, mais aussi pour prévenir d'éventuelles contaminations.
Merci, Anissé Mbida. Cela dit, oui, il y a un petit côté angoissant sur les caddies en ce moment, ça, si ça peut rassurer, c'est déjà un grand pas de fait. Anissé Mbida, l'innovation tous les matins, juste après le journal de 7h. Il est 7h17.
Europe 1. Il y a eu du football ce week-end dans un stade, on en parle avec Virginie Fulpin, son éditeur.
C'était en Allemagne, hein. C'était en Allemagne, ne vous enflammez pas. Record d'audience, mais ça donne quoi le foot à huis clos, le foot au temps du coronavirus? Ce sera juste après Le Monde Bouge avec Axel de Tarlé, à tout de suite.
Il est 7h20 sur Europe 1, la matinale, Mathieu Béliard.
L'édito sport de Virginie Fulpin dans un instant, bonjour Virginie.
Bonjour Mathieu.
Le foot à la télé était de retour en Allemagne. D'ailleurs, c'est la question que je vous pose ce matin. Est-ce que ça vous manque le foot, le sport, pas que le foot, pardon, le sport professionnel à la télé, à la radio? On va en parler entre 9h et 9h30, l'édito sport. Dans un instant, d'abord, il est là, en studio, avec nous, Axel de Tarlé, bonjour.
Bonjour Mathieu.
Le monde bouge, ça y est, le Covid provoque des premières faillites. Dans le secteur de l'ameublement, le distributeur Alinéa dépose le bilan et Conforama menace de faire de même s'il n'obtient pas urgemment une aide de l'État.
Oui, le patron d'Alinéa le dit très clairement et nombre de commerçants vont sûrement se reconnaître dans ses propos. Il explique, on a eu les gilets jaunes qui ont plombé les week-ends, puis on a eu la grève contre la réforme des retraites qui a plombé la saison de Noël, et maintenant on a le Covid qui nous achève, case dépôt de bilan. Alors effectivement, Conforama menace de suivre s'il n'obtient pas un prêt, mais apparemment les banques tiquent. Il faut dire que les difficultés de Conforama ne sont pas nouvelles. Vous savez, comme on l'a dit, ce coronavirus accélère des tendances qui étaient déjà à l'œuvre, à savoir que le secteur de l'ameublement est un secteur en crise.
Mais c'est curieux parce que la tendance, elle est au cocooning. Le confinement a renforcé cette envie de prendre soin de son intérieur.
Oui, mais aujourd'hui, on achète des meubles sur Internet. Et sur Internet, on casse les prix. C'est donc une concurrence redoutable pour les anciennes traditionnelles. Vous savez, le e-commerce représentait déjà avant la crise 15% des ventes. On peut penser que ce chiffre s'est encore envolé avec les 2 mois de confinement. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait face à cette déferlante du e-commerce? Est-ce qu'on est condamné à fermer boutique? Eh bien justement non. Il y a une solution, c'est de proposer de vendre des meubles qu'on ne trouve pas sur Internet ou sur Amazon, d'avoir une offre exclusive. Et ça, c'est le modèle IKEA. Quand on va chez IKEA, on achète un lit IKEA, un produit bien particulier qu'on ne trouvera pas ailleurs. Et là, ça fonctionne. C'est d'ailleurs une problématique à laquelle sont confrontés tous les distributeurs. Pour survivre dans ce monde hyper concurrentiel, il faut une offre différenciante, une offre exclusive. C'est bien pour ça que la grande distribution met le paquet en ce moment sur les marques distributeurs, des produits exclusifs qui permettent d'attirer et de conserver sa clientèle.
Axel de Tarlé, Le Monde Bouge. Merci beaucoup Axel, très heureux de vous retrouver, 7h22.
L'édito sport avec Virginie Fulpin sur Europe 1.
L'édito sport, il y a eu du foot, je le disais ce week-end, le championnat d'Allemagne qui a repris la Bundesliga. Mais pour vous, Virginie, c'était douloureux de voir des matchs dans ces conditions ?
Bah, au départ, j'avais des picotements dans les yeux. Hein. Oh, du foot, ça fait 2 mois qu'on n'en a pas vu. Même si j'étais plus que dubitative face à cette reprise, au moment du coup d'envoi des matchs, samedi, je me suis dit, allez, ça va nous faire un bien fou, on va passer 90 minutes comme avant, en mettant ce virus de côté pour l'après-midi, et on va parler coup franc et passement de jambes. Bah oui, mais l'enthousiasme a été vite douché. Hein. En fait, on n'a pas regardé un match de foot, on a regardé comment se passait un match de foot au temps du coronavirus. Et c'est pas du tout la même chose. Hein. On ne profite d'aucune action, on ne décrypte pas la tactique ni la technique, on regarde si les joueurs respectent les consignes de sécurité. Point barre. J'avais l'impression d'être un contrôleur devant ma télé. Et pourtant, je vous assure que ça n'était pas ce que j'avais prévu de faire. Hein. Mais il est là, ce virus, et c'est très compliqué de s'en détacher. Et puis, en regardant ces matchs de cette manière, ce qui saute aux yeux, c'est le manque de logique totale qui prévaut. Il ne faut pas se tomber dans les bras les uns des autres après un but, mais quand il y a un coup franc adverse, les joueurs sont collés serrés pour former un mur. Les remplaçants sont masqués et éloignés les uns des autres, mais quand ils rentrent sur le terrain, ils tapent dans la main de celui qui sort. Il y a danger ou il n'y a pas danger alors? Ça tenait plus du voyage au pays de l'absurde que d'une immersion en Bundesliga, hein, cette histoire.
Et puis évidemment, il n'y avait pas de public, hein. C'était à huis clos.
Oui, ça n'était pas une surprise, mais ça fait encore plus mal en direct. Hein. Quand deux joueurs se hurlent dessus pour s'adresser quelques politesses dont on aurait pu discuter pendant des heures dans le monde d'avant, ce qu'on retient là, c'est que si on les entend, c'est parce qu'il n'y a personne en tribune. Et non, on n'a pas forcément envie de vivre le foot comme ça. Même s'il y a eu 6 millions de téléspectateurs en Allemagne samedi, ce qui est un record. Hein. Forcément, il y avait un manque de foot. Mais là, on dirait qu'on s'est tous réunis pour un concert en playback. Comme si la petite musique du football était là, mais sans l'émotion, sans l'échange. Est-ce qu'il va falloir s'habituer à ça? Ça fait partie des questions sans réponse pour l'instant. Mais quand l'argument de ceux qui voulaient faire reprendre le championnat à tout prix était qu'on avait besoin de ces moments de bonheur, honnêtement, c'est un bonheur un peu frelaté. Hein. Et puis au coup de sifflet final, il reste une interrogation. Est-ce qu'ils ont pris des risques? Est-ce que dans quelques jours, il n'y aura pas des cas positifs dans les équipes? Je ne sais plus, en fait, si j'ai regardé du football ou un test de laboratoire grandeur nature. Et ça laisse un goût assez amer.
Oui. Bon, déçu Virginie Fulpin, et en même temps les 6 millions d'Allemands étaient très heureux de retrouver du football à la télévision. Est-ce que ça vous manque le sport pro, la compétition très sérieusement? Il y a Roland Garros qui devait démarrer normalement cette semaine pour les qualifications. Ce sera notre débat, notre discussion entre 9h et 9h30, et nous serons avec Jean-François Pérez qui est chef du service des sports pour peut-être faire une mise à jour, hein, un petit peu de ce que l'on sait, ce que l'on sait pas sur la reprise du football à l'échelle nationale, à l'échelle européenne, la reprise du rugby, du tennis, tous ces sports, le basket. N'hésitez surtout pas, et j'en appelle aussi aux sportifs amateurs, et les compétitions du week-end à l'arrêt pour les sports collectifs, cela va de soi. Comment on s'organise? Qu'est-ce qu'on prépare justement pour la reprise? 39-21, le hashtag Radio Ouverte, ce sera notre échange ce matin entre 9h et 9h30. Il est 7h25. Europe 1.
A tout de suite sur Europe 1 avec la météo et le journal de Jérôme Lacroix. Il est 7h27, la matinale d'Europe 1, Mathieu Béliard.
Et Laurent Cabrol en direct avec nous pour la météo.
Et il ne fait pas très chaud ce matin quand même, hein, entre 3 et 11 degrés sur la moitié nord, entre 13 et 17 au sud ça va, et 3 degrés à Brest et 11 degrés en banlieue parisienne, vous voyez que ça n'est pas très très élevé, mais enfin bon, peu importe puisque le ciel est dégagé, et comme je le disais tout à l'heure, et comme je le dis depuis ce matin, le temps est beau et ensoleillé, ça sera une belle journée, avec quelques brumes près de la Manche, avec quelques orages sur les Alpes, la Corse et la Côte d'Azur, bon... Petite nuance, trois fois rien. Et puis des températures entre 18 et 26 degrés. 18 à Deauville, 26 à Marseille. Tiens, 22 à Dijon, à Lille, à Clermont-Ferrand. 23 à Limoges, 24 à Lyon et 25 à Paris. Voici pour les températures. Demain et après-demain, ça sera exactement le même type de temps, avec des températures même à la hausse. Et ce, jusqu'à vendredi. Samedi, dimanche, ça va se gâter quand même, avec l'arrivée d'orages, l'arrivée de températures basses, etc. Donc, ce ne sera pas très très beau, samedi, dimanche. Mais la semaine prochaine, on devrait retrouver le même type de temps que nous avons maintenant. Autrement dit, selon les prévisions de votre serviteur, et ça n'engage que moi, eh bien, jusqu'à la fin du mois, on aura du temps presque estival.
Merci beaucoup Laurent Cabrol, et bonjour Jérôme Lacroix.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Un nouveau journal sur Europe 1, il est presque 7h30.
Nous, on est un peu les oubliés. J'accepte de fermer un an s'il le faut. Si on me dit pendant un an, pas de bar, pas de boîte, rien, ok, mais aidez-nous, parce que ça va pas durer indéfiniment comme ça.
Ces patrons de bars, de cafés, de petits établissements qui redoutent la violence de la crise économique. Ils craignent de devoir licencier. Les inquiétudes d'un patron sur 5 dans les Hauts-de-France. Nous serons dès le début du journal. Les grilles de certains collèges de nouveau ouvertes pour les élèves de 6e et 5e, seulement dans les départements verts. Les salariés de 3 abattoirs français frappés par une série de contaminations, même phénomène dans plusieurs pays étrangers. Nous tenterons de comprendre pourquoi. Et puis, le confinement a fait du bien aux créatures des fonds marins. nous plongerons. Votre invité après journal, Mathieu.
Thierry de la Tour d'Arthèse, PDG du groupe Seb, l'électroménager pendant le confinement, bien sûr. Mais surtout Seb qui se lance dans la production de vélos électriques. On va en parler juste après ce journal. Il est 7h30.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
La crise sanitaire frappe durement et devant nous, la crise économique aussi rude, sinon plus. Des entreprises nombreuses sans activité pendant 2 mois, conséquences à venir lourdes sur l'emploi notamment.
Illustration dans les Hauts-de-France. 1 patron sur 5 envisage de licencier dans les prochaines semaines. Selon une enquête de la Chambre de commerce et d'industrie, le chiffre monte à 32% dans l'hôtellerie et restauration. Des licenciements peut-être synonymes de fermeture pour les plus petites structures. Maximilien Carlier a rencontré le gérant d'un café à Lille.
Alors ici, on est dans le bar La Base Arrière à Lille. Ça va faire bientôt presque 2 mois qu'on est fermé aujourd'hui.
De la poussière sur des tiroirs à bière, des fûts à la poubelle, aucune recette depuis plusieurs semaines pour Johan, le gérant.
On a zéro, il n'y a rien qui rentre.
Se séparer de son employé, mettre la clé sous la porte, oui, il devra le faire forcément si la pandémie perdure, mais il se sent surtout délaissé.
Je suis blasé parce qu'on parle que des restaurateurs, sauf que les restaurateurs, ils s'en sortent beaucoup mieux que nous. Et nous, on est un peu les oubliés. J'accepte de fermer 1 mois, 2 mois, j'accepte même de fermer 1 an s'il le faut. Si on me dit pendant 1 an, pas de bar, pas de boîte, rien, ok, mais aidez-nous, parce que ça ne va pas durer indéfiniment comme ça.
Il n'y a pas que les petites structures qui sont concernées, des entreprises plus importantes envisagent de licencier. Pas surprenant pour Philippe Ourdin, président de la CCI dans les Hauts-de-France.
On s'y attendait parce qu'une quantité très importante de cafés, hôtels, restaurants n'ont pas encore de date de commencement de nouvelles activités qui envisagent de licencier en partie importante. Ça représente des dizaines de milliers d'emplois dans les Hauts-de-France.
Impossible de donner un chiffre précis, mais le président de la CCI pense qu'il y aura moins de 100 000 licenciements dans une région qui compte 1 400 000 salariés dans le secteur marchand. Lille, Maximilien Carlier, Europe 1.
4000 collèges rouvrent aujourd'hui dans les zones vertes, accueillent des 6e et 5e seulement par petits groupes, 150 000 élèves au total, avec port du masque et règles drastiques d'hygiène.
Les abattoirs sont-ils propices à la propagation du coronavirus? Question ce matin. Après que 3 nouveaux foyers sont apparus dans des abattoirs en Vendée, mais aussi dans le Loiret, 34 cas à Fleury-les-Aubrais, et au Méné, près de Saint-Brieuc, c'est dans les Côtes-d'Armor, 69 malades découverts au total.
Alors pourquoi cette recrudescence dans des abattoirs? Geoffrey Le Guilcher, journaliste indépendant, il a récemment mené une enquête. Il a infiltré un grand abattoir dans les Côtes d'Armor, justement.
Ce qu'il faut comprendre, c'est que les grands abattoirs, t'as beaucoup de monde qui travaille. Donc en fait, il y a des horaires où les gens arrivent et travaillent d'un coup ensemble. Et donc, on est beaucoup dans le vestiaire, on est beaucoup dans la salle de pause, on est beaucoup quand on se prépare, quand on boit un café ou quand on mange. C'est compliqué d'éviter ça parce que c'est des gens qui bossent à la minute près. Si la cadence n'a pas baissé, ils sont obligés d'être en même temps sur la chaîne. Donc ils sont obligés d'être en même temps dans la salle de la machine à café. Pendant le travail, en tout cas dans les grands abattoirs, tout le monde est en combinaison, équipé de masques, avec des gants, tout le monde se lave les mains entre chaque animal. Donc en fait, c'est pas là où c'est le plus propice. C'est le plus propice quand les masques tombent, parce qu'on jette tout, on n'a pas le droit de rentrer avec les combinaisons, que ce soit dans les vestiaires ou que ce soit dans la salle à café. On est obligé de rentrer sans tout ça. Donc c'est à ce moment-là que c'est plus dangereux. C'est un milieu particulier où, dans tous les cas, il y a des gens qui travaillent ensemble dans les mêmes salles, qui est propice à la propagation d'un virus.
Le journaliste indépendant Geoffrey Le Guilcher, joint pour Europe 1 par Pierre Herbulot, le ministre de la Santé Olivier Véran, parlait hier de 25 nouveaux foyers de contamination apparus ces derniers jours.
Europe 1 reçoit ce matin François Baroin, maire de Troyes, président de l'Association des maires de France. Rendez-vous à 8h15, l'interview de Sonia Mabrouk, bien sûr. Et puis vous, vos questions, n'hésitez pas, inscrivez-vous dès maintenant vos questions au 3921 et sur le hashtag Radio Ouverte.
François Baroin, la parole rare d'un homme vu comme présidentiable pour la droite en 2022. Bonjour Mickaël Darmon.
Bonjour.
Mickaël, les propres soutiens de François Baroin le pressent de déclarer ses intentions, mais pour l'instant, il ne change pas de rythme.
Eh bien non, parce que ce qui est important pour lui, c'est de partir à point. Et pour l'instant, il continue à réfléchir au bon timing. La crise du coronavirus l'a convaincu au moins d'une chose, c'est que ce n'était pas le moment de parler aux Français de son ambition présidentielle, surtout avec un président omniprésent. Donc pour préparer son éventuelle candidature, François Baroin lui travaille avec une équipe restreinte et fait surtout attention à ne se laisser enfermer par personne, c'est-à-dire qu'il veut être libre par rapport donc à ses fameux entourages qui cherchent toujours à influencer leur champion. Alors contrairement également aux autres potentiels candidats de la droite, Valérie Pécresse et Xavier Bertrand, lui il a choisi de ne pas affronter directement le pouvoir. Vous connaissez l'adage politique, hein, c'est le candidat qui en a le plus envie qui gagne. Et bien pour l'instant, François Baroin fait le pari que les Français feront en 2022, le choix de la raison contre celui de la passion du pouvoir.
Michaël Darmon le fait politique tous les jours dans la matinale d'Europe 1.
Et je le rappelle, hein, vous posez vos questions à François Baroin, vous l'interpellez au 39-21. Symbole en Italie, réouverture de la basilique Saint-Pierre de Rome, reprise de visite dans un strict cadre sanitaire, pas de célébration prévue pour le moment.
C'est la phase 2 du déconfinement italien. Bars, restaurants, coiffeurs peuvent à nouveau, à partir d'aujourd'hui, accueillir des clients. Direction maintenant, Mathieu, les abysses, les vertigineux fonds marins, où la faune a aussi profité du calme de la surface pendant le confinement.
Les scientifiques de la mission Quiet Sea ont écouté le milieu marin entre le 23 avril et le 10 mai. Résultat, des espèces beaucoup plus audibles et même qui communiquent davantage entre elles.
Voilà qui a ravi les oreilles du directeur de la mission, Hervé Glotin.
On a constaté donc des contacts entre les individus de mégafaune, les rorquals, les cachalots, les dauphins, des contacts qui ont dû être beaucoup plus faciles du fait de la distance des sons qu'ils émettaient, qui étaient doublés certainement, et ça on va pouvoir le quantifier avec nos calculs. On a pu rencontrer plusieurs individus de grands dauphins, très relax, très reposés d'habitude. Les grands dauphins, vous pourriez les croiser et puis ils vont pas rester autour de votre bateau. Bon, ça, c'est un constat d'animaux qui sont absolument à l'aise dans leur milieu. Donc, ils ont vécu des moments intrigants pour eux. Ils ont vu un nouveau monde. Et puis là, ça se referme et ils ne le reverront sûrement jamais. Peut-être qu'ils vont être surpris de la reprise qui va les effrayer encore plus que s'ils avaient été constamment baignés dans un bruit normal. Peut-être que ces mesures vont nous aider à déterminer jusqu'à quand ces animaux supporteront le bruit usuellement émis par nos activités maritimes.
Le professeur Hervé Glotin, micro-européen de Sophie Echen. Je vous ai mis une petite ambiance de fond marin. Quand même.
Ah, un petit côté le grand bleu. Voilà. Et puis il y a le petit rouge. C'est Jérôme Lacroix qui a pris le soleil ce week-end. Ah, je suis obligé, je suis désolé. C'est sur europe1.fr pour ceux qui veulent suivre. Et oui, il a déconfiné Jérôme Lacroix. Merci beaucoup. Michaël Darmon à côté, choqué.
Non, il avait pas
ça
marqué,
ne se dit pas. Non, 7h36 sur Europe 1. Merci à vous deux. Bon réveil.
Europe 1.
La matinale d'Europe 1, la suite avec vous, Mathieu Béliard et votre invité.
Le PDG de Seb, dans un instant. On va parler de l'électroménager vendu pendant ce confinement, bien sûr, mais vous allez voir que Seb se lance dans la mobilité et développera un vélo électrique, fabriquera un vélo électrique. Où ça ? Ici en France. A tout de suite.
Europe 1, il est 7h39. Votre invité, Mathieu Béliard, est le PDG du groupe Seb, Thierry de la Tour d'Arthèse.
Bonjour Thierry de la Tour d'Arthèse.
Bonjour.
Et merci d'avoir choisi Europe 1 ce matin. Vous avez annoncé, ça s'est fait hier dans le journal du dimanche avec Marc Simoncini, le fondateur de Mythic, le développement et la fabrication d'un vélo à assistance électrique. Angèle, le groupe Seb, c'est beaucoup d'électroménagers à l'international. Aujourd'hui, vous allez fabriquer un vélo dans votre usine en Côte d'Or.
Oui, absolument. Bah écoutez, nous savez que notre mission depuis 163 ans, donc ça fait quand même quelques temps, c'est de s'occuper, de embellir et faciliter la vie quotidienne des gens. Donc bien sûr, nous sommes toujours très sensibles aux évolutions de consommation et donc d'utilisation de l'évolution des habitudes des consommateurs.
Oui.
Et donc, on essaie toujours de décrypter ce que nous pourrions faire pour apporter un plus. Donc, dans les friteuses, c'était la friteuse sans huile. Et on voit bien aujourd'hui que la mobilité est un élément très important de la vie quotidienne des gens. Et que de plus en plus, le vélo sera une réponse. Et donc, il nous a pensé normal d'y participer.
Alors, pour la petite histoire, pour nos auditeurs, cette usine, en particulier en Côte d'Or, c'est là où la cocotte minute a vu le jour. Ça date un petit peu. Et puis, plus récemment, cette friteuse sans huile qui y est fabriquée. La question des mobilités en pointe, l'innovation clairement en ébullition dans le domaine, mais pour Seb, c'est une nouveauté cela dit. Ce vélo haut de gamme, donc 2 700 €, c'est un vélo intelligent. C'est le secret pour fabriquer ici, chez nous, dans des usines françaises, c'est de faire du haut de gamme ?
Ah, c'est la seule solution. Il faut effectivement faire des produits intelligents, innovants. Nous avons d'ailleurs dans nos 12 usines françaises, nous fabriquons des produits qui sont à forte valeur ajoutée. Je crois qu'aujourd'hui, il faut savoir choisir son combat. Et évidemment, il ne s'agit pas de produire en France des produits d'entrée de gamme, parce que ça, c'est pas possible. La concurrence, notamment asiatique, est trop importante. En revanche, il y a une place, et comme nous sommes un industriel, nous aimons fabriquer en France, nous pensons que nous avons d'énormes compétences dans nos usines, que ce soit en développement de produits, en industrialisation, en fabrication. Et donc, il s'agit d'abord de travailler pour maintenir l'emploi en France et d'utiliser toutes ces compétences et dans ce savoir-faire que nous avons dans nos usines pour le mettre au service de produits innovants.
Alors, ce n'est pas la première adaptation de l'outil de production de Seb, hein, dans cette période particulière, dans cette crise. Vous participez à la fabrication de respirateurs ?
Oui, alors ça c'est bien sûr une optique un petit peu différente à son origine, puisque nous avons été contactés par le CEA et la région Auvergne-Rhône-Alpes avec Monsieur Wauquiez qui nous a demandé de si nous pouvions intervenir, puisqu'on un respirateur, il y a des flux d'air et donc on connaît un petit peu ça à travers nos aspirateurs. Donc on nous a demandé si on pouvait contribuer à essayer de sortir des respirateurs très rapidement et à des prix très bas pour essayer de contribuer à la lutte contre le virus. Et bien sûr, nous ne pouvions pas ne pas réagir. Donc, nous avons mis des équipes en place et qui travaillent sur un respirateur qui, une fois bien sûr qu'il aura eu tous les agréments nécessaires,
mais je n'avais pas la genèse.
Pour être utilisé.
Je n'avais pas la genèse de l'histoire. C'est parce que vous produisez des aspirateurs que vous êtes capable de vous lancer dans l'aspirateur, c'est intéressant.
On comprenait ça assez bien, à la fois les flux d'air, les problématiques de bruit qui sont évidemment importantes dans un respirateur. Donc il y avait beaucoup de choses que nous connaissions et que nos équipes rêvaient de mettre au service d'une cause qui nous paraissait importante pour essayer de soigner le plus de malades à une époque où la situation était très compliquée.
Alors Thierry de la Tour d'Arthez, vous avez toujours 11 sites de production en France pour SEB. Vous devez être sensible à ces problématiques, ces débats que l'on a en ce moment autour de la relocalisation. Et vous en témoignez finalement, on peut produire, on peut fabriquer sur le sol français.
Oui, je crois simplement, comme je vous le disais, qu'il faut choisir son combat, c'est-à-dire qu'il ne faut pas vouloir tout produire en Europe ou en France. Donc il y a des produits, dans le petit électroménager notamment, que nous ne pouvons plus fabriquer en France parce que le coût est trop élevé par rapport à ce que le consommateur est prêt à payer pour ce genre d'appareil. Mais en revanche, quand on choisit des produits à forte valeur ajoutée qui vont apporter un plus encore plus important aux consommateurs et qui vont donc se vendre plus cher, on peut arriver à fabriquer en Europe. Ça reste, ce n'est jamais gagné, il faut être très innovant. Mais je crois que, oui, le fait que nous ayons encore 11 ou 12 sites en France témoignent de ce qu'on peut y arriver. Évidemment, si on pouvait baisser un peu les charges, nous en serions plus contents.
C'est un appel que vous lancez ce matin.
Bien sûr, comme toujours. Mais je crois que non.
Il revient régulièrement cet appel.
Alors, simplement, je profite de cela.
Mais bien sûr. Mais pour parler de choses qui fâchent, Thierry de la Tour d'Arthez, SEB anticipe une perte de chiffre d'affaires d'un demi-milliard d'euros au deuxième trimestre 2020. Je parle sous votre contrôle, hein, c'est une baisse de 15% de vos ventes. Et pourtant, on a cessé de raconter que les Français achetaient des machines à pain, des tondeuses pour les cheveux, des yaourtières. Ça ne vous a pas bénéficié ?
Si, bien sûr, nous avons vendu tous ces appareils. Et comme vous le dites, on retrouve tous les produits, je dirais, qui concernent le fabriqué maison. Ça a été une tendance extrêmement forte pendant cette période. Le soin de l'intérieur avec des purificateurs d'air ou des aspirateurs. Le soin de la personne, des tondeuses aussi, en l'absence de coiffeur. Mais tout ceci ne peut évidemment pas remplacer une activité pérenne. Nous faisons 7,5 milliards de chiffre d'affaires par an. Donc, vous voyez, c'est difficile en période où il n'y a pas de distribution, puisque finalement, pendant pas mal de temps, nous n'avons eu que la possibilité de vendre sur Internet ou dans les hypermarchés qui avaient maintenu une activité hors alimentaire. Donc il nous a manqué beaucoup de créneaux de distribution. Et puis nous avons, comme nous sommes très présents en Chine, été d'abord affectés par le coronavirus en Chine, puis ensuite en Europe. Mais je dirais que c'est sans doute la chance que nous avons d'être mondial.
J'ai vu que vous fabriquez et que vous vendez des rice cookers, hein, des autocuiseurs à riz. C'est un Français qui distribue les rice cookers aux Chinois.
Nous fabriquons dans nos usines chinoises et nous vendons, mais nous sommes le numéro 1 des produits non électriques et le numéro 2 des produits électriques en Chine. C'est une société que nous détenons, mais qui est cotée à la bourse de Shenzhen et qui est donc un des grands acteurs du marché chinois.
Et donc,
bien sûr, nous avons été affectés en début d'année, mais nous espérons que le second semestre sera bien meilleur et qu'il rattrapera en partie ce manque de chiffre d'affaires du premier semestre, mais ça restera, comme pour beaucoup d'entreprises, une année évidemment compliquée.
Le rice cooker, en attendant que vous vendiez des vélos aux Chinois, des vélos à assistance électrique, connectés, des vélos intelligents. Il s'appelle Angel, avec deux L à la fin. Il a été créé avec Marc Simoncini, fondateur de Mythic, et il sera fabriqué par SEB. Vous l'annoncez ce matin, vous le détaillez. Merci beaucoup, Thierry de la Tour d'Arthez, en direct sur Europe 1 ce matin, le PDG du groupe SEB, les acteurs de l'actualité, en direct sur Europe 1.
Europe 1. Une nouvelle chanson pour le Secours Populaire, elle est signée Mathieu Chédid, Périscope Assure avec Jean-Philippe Ballast.
Non, c'était Omblin nous retrouve ce matin, ça c'était vendredi. Un petit bug de notre part, Jean-Philippe Ballast s'installe en studio. Il est de retour en studio, on va le retrouver dans un instant. Et vous savez quoi du coup ? Suspense pour le contenu.
Il est 7h48, la matinale d'Europe 1, Mathieu Béliard.
Et on les retrouve, Nicolas Bétou, l'opinion de Nicolas Bétou dans un instant. Bonjour Nicolas.
Bonjour Mathieu.
Votre édito, c'est juste avant le journal de 8h et c'est tous les matins sur Europe 1. Mais d'abord, Jean-Philippe Ballas pour Periscope, la culture à 360 degrés. Bonjour Jean-Philippe.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
En studio avec nous ce matin, Jean-Philippe, et ce matin, on va à l'opéra. Plus précisément dans les coulisses de l'opéra, avec un documentaire remarquable. Il est mis en ligne gratuitement sur le site de l'Opéra de Paris, Jean-Philippe.
Oui, et dans ce film, il y a une séquence qui résume tout. C'est un gros plan sur une danseuse de ballet. Derrière le rideau, juste avant d'entrer en scène, visage fermé, concentré, après des semaines et des semaines de répétition.
Jacques, tata, c'est pas assez glisser le pied derrière. Oui, amorti tes descentes. Oui. Presque, tu soulèves ton bassin pour aller sur ta pointe.
Et la voici maintenant, qui entre en pleine lumière, souriante, tête haute, légère, presque facile en apparence. Je dis bien en apparence parce qu'ensuite, il y a le retour en coulisses. La danseuse est exténuée, on la voit s'asseoir à même le sol dans la pénombre, littéralement à bout de souffle. Bref, tout ce que le public ne voit jamais, ou presque, c'est dans ce documentaire signé Jean-Stéphane Bron.
C'était une sorte de grand travail de mise en confiance pour dire « montrons aussi ce qui est difficile, ce qui est compliqué ». Ce qui m'a surpris, on va dire, c'est l'incroyable énergie. C'est un film justement que je voulais assez joyeux, assez enlevé, etc. J'ai aussi été porté par l'énergie de tous ces incroyables artistes qu'il y a à l'opéra. Je me disais, voilà, je filme une société qui, tous les soirs, lève le rideau à une espèce de but commun, un horizon commun, malgré les tensions qu'il peut y avoir. Comment est-ce qu'elle avance?
And we'll just do it one more time. Yapparapadam et piano. Un, deux.
Et c'est ainsi que pendant une saison, le réalisateur a pu filmer en huis clos les habitants de cette planète opéra de Garnier à Bastille. Artistes, techniciens, direction, toute une galerie de personnages. Parmi les plus talentueux et les plus attachants, je retiens Mikhail Timoshenko. À l'époque, tout jeune baryton débarqué d'un village de Russie et émerveillé de se retrouver là, à Paris.
C'était mon rêve, c'était mon but. L'opéra, c'est comme un bateau de pirates, toujours prêt pour quelque aventure et toujours ensemble dans mon cœur, dans mon âme. C'est vraiment devenu ma famille.
C'est super. Fais encore une fois, Lo Suonero. Si forte, hein.
Vous l'entendez, hein, l'opéra, c'est un bateau de pirates. Je précise que ce documentaire n'est pas un film officiel, entre guillemets. C'est-à-dire que le réalisateur a eu le final cut. Mais il filme avec beaucoup de justesse, manifestement, puisque l'Opéra de Paris a donc décidé de le diffuser sur son propre site, gratuitement. Ça commence ce soir à 19h30 et c'est absolument passionnant.
Vous nous avez donné envie de voir ce documentaire. L'Opéra, c'est un bateau de pirates. J'aime bien, ouais. J'aime bien cette formule. Je la garde. Periscope, la culture à 360 degrés. Merci beaucoup Jean-Philippe Ballas. Il est 7h51.
Sur Europe 1, l'opinion de Nicolas Bétou.
En lançant les cérémonies de l'année de Gaulle, hier à Montcornet, Emmanuel Macron a en réalité délivré toute une série de messages subliminaux, Nicolas.
Oui, en théorie, cette visite sur les champs de bataille de mai et juin 1940 devait être le premier déplacement d'Emmanuel Macron depuis plus de 2 mois consacré à autre chose que la crise du coronavirus. Bon, mais en réalité, à travers l'évocation de ces moments d'histoire, il n'a parlé que de ça, à la fois de la crise, pour rappeler qu'il était déjà arrivé que le pays soit vaincu par un ennemi implacable, et puis pour souligner ensuite que, même dans des circonstances aussi cruelles, la France s'était redressée.
Bon, est-ce que ce n'est pas, comment dire, une habitude journalistique de chercher dans un discours sur l'histoire tout ce qui se rapporte à l'actualité ?
Alors oui, j'admets que ça existe et que ça peut être une facilité, mais cette fois, vraiment, il n'y a aucune ambiguïté. Tout se rapportait au présent. Tenez cette phrase. « Dans la stupeur et la sidération, notre pays essuyait une des plus rudes défaites de notre histoire. » Stupeur et sidération, exactement les sentiments qui ont saisi le pays au moment du déferlement du virus. Et ce stratagème du chef de l'État lui a permis de multiplier les messages. Tenez cette autre phrase sur l'impréparation du pays à la crise actuelle. « En 1940, dit Emmanuel Macron, l'armée française avait des failles, des faiblesses, manière de reconnaître que le pays, sur le plan sanitaire, avait des failles, des faiblesses face à la crise du Covid-19, ce qui ne l'a pas empêché, il y a 80 ans, comme aujourd'hui, de tenir tête. L'allusion est transparente.
Mais est-ce que ça fonctionne encore, Nicolas, cette référence à De Gaulle ?
Alors c'est vrai que les Français en majorité ne l'ont pas connu ou n'ont aucun souvenir du personnage, et donc invoquer le gaullisme, d'ailleurs comme tous ses prédécesseurs, n'évoque plus grand-chose de concret. Sauf si vous vous appuyez sur l'histoire pour parler du présent. Dire « De Gaulle, c'est l'unité de la France », bon, ça n'a de portée contemporaine que si cette union nationale, cette concorde nationale est votre objectif politique du moment. Même chose si vous vous appuyez sur l'histoire pour parler de vous. Dire que, je cite, « la majorité des hauts fonctionnaires et des dirigeants politiques se montraient fatalistes en 1940 », c'est justifier l'incompréhension et le déficit de confiance que subit aujourd'hui le chef de l'État. Et si le destin de De Gaulle montre, je cite encore, qu'il y a des défaites d'un jour qui portent en elles-mêmes les victoires du lendemain, alors oui, en prononçant ces mots, il y a fort à parier que le chef de l'État pensait à l'avenir d'un certain Emmanuel Macron.
Merci Nicolas Bétou, directeur du journal L'Opinion, votre édito, tous les matins sur Europe 1, juste avant 8h.
Europe 1. Et dans un instant, on va retrouver Mathieu Noël.
Bien sûr, juste avant la météo de Laurent Cabrol et le journal de 8h avec François Geffrier. À tout de suite.